Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général de la Fondapol, Dominique Régnier.
Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1, la Fondapol, je le rappelle, la Fondation pour l'innovation politique. L'événement ce lundi, Dominique Régnier, ce seront donc les deux motions de censure déposées après le déclenchement jeudi dernier du 49-3. Alors l'une de ces motions de censure émane du Rassemblement National, l'autre du groupe LIOT, donc ces indépendants de l'Assemblée. Elles vont être débattues cet après-midi. Est-ce que vous pensez, Dominique Régnier, qu'au moins l'une des deux a une chance d'aboutir?
C'est très... Je ne crois pas que la motion de censure déposée par le RN ait des chances d'aboutir. La seconde déposée par ce groupe fait de tout et de rien. Hein. Ce sont des députés sans groupe qui s'agrègent en quelque sorte.
Parce que c'est intéressant d'être un groupe, il faut le rappeler. Ça donne plus de pouvoir, de temps de parole, etc.
Exactement.
Oui. Et il y a un petit suspense quand même autour de cette motion dite transpartisane.
Je ne comprendrais pas que la motion soit adoptée. En particulier, cette idée de motion transpartisane fait voler en éclat les clivages. On nous disait jusqu'ici que c'était très important d'être du centre, de droite, de gauche, LFI, RN, etc. Mais en fait, on voit là que rien ne résiste à l'aspiration dans une motion commune. Je pense aussi quand même que ça va laisser des traces sur ce fameux front républicain, barrage républicain.
Ah oui, intéressant ça.
Parce que là, on va voir tout le monde voter ensemble, y compris peut-être même certains de partis modérés aux côtés du RN pour renverser un gouvernement. Je ne crois pas que ce soit sans conséquence. Je crois que certains le feront, mais ça va finir de disperser, de pulvériser cette idée de front républicain.
Oui.
Et puis je pense surtout, Dimitri Pavlenko, qu'on parle beaucoup depuis quelques années, un peu plus depuis quelques mois, d'une crise de la Ve République et de ses institutions. Mm-hmm. Moi je trouve que les institutions fonctionnent bien, mais que par contre ce qui est dynamité définitivement, c'est le système politique.
Ah oui.
C'est le système partisan. En fait, on s'est trompé de sujet.
Quelle
institution résiste? Le 49-3 fait partie des institutions de la 5e. C'est un article de la Constitution.
Oui, mais tout le monde dit que c'est... Enfin, tout le monde dit dans la rue, on entend partout que c'est un déni démocratique.
Bon, je ne sais pas si les gens pensent quelque chose du 49-3. Franchement, je crois qu'il y a toute une série de discours qui ont été greffés sur cette crise. Ça a parfois été porté par des personnalités qui savent exactement ce qu'elles disent et qui le font donc de manière très, très consciente pour discréditer au fond des institutions. Le 49-3, on va le répéter parce que c'est quand même un peu lassant, mais fait partie des articles de notre Constitution. C'est tout à fait légitime de l'utiliser. Et s'il y a un moment où il faut l'utiliser, c'est maintenant.
Mais quelle est la nature de la crise,
justement,
alors? Comment vous la qualifieriez, Dominique Régnier?
Il n'y a plus d'opposition en France. Il n'y a plus qu'un agrégat de formations politiques et leurs groupes qui les représentent, capables, on va le voir, mais qui peuvent tenter de renverser un gouvernement, c'est-à-dire d'empêcher une majorité, fût-elle relative, de gouverner. Il n'y a plus que cela. C'est-à-dire que si vous mettez, chacun le sait, c'est encore plus connu que le 49-3.
Vous dites que ce n'est pas des oppositions, ce sont des obstructions politiques, finalement.
Oui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est fait depuis le départ. C'est-à-dire que depuis le départ, je suis désolé de rappeler ça, parce que vous l'avez beaucoup dit, mais depuis le départ, les oppositions, en particulier la France insoumise, s'efforcent d'empêcher le vote sur, notamment, le départ à 64 ans. On veut empêcher le vote pour qu'on puisse avoir une crise politique et essayer d'en profiter. C'est la stratégie de Mélenchon, avec obstination. Ça donne des résultats très contestables, mais enfin, il poursuit. Là, on a un système qui ne sait pas faire autre chose que multiplier les amendements par 1000 ou 10 000, empêcher les votes, et quand le système est bloqué, hurler parce qu'on a un appel au 49-3 qui permet d'avancer. C'est fait pour ça, le 49-3. Quand il n'y a plus de majorité, on l'utilise. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, quelle force politique en France est capable, comme c'était le cas en 1996-97, de lever le gant et de dire, écoutez, nous allons former une majorité, nous allons gouverner, nous avons une politique alternative. Aucune. On n'imagine pas Charles de Courson, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, dans le même gouvernement.
Travailler
ça n'a
ensemble,
pas de sens. Ni même dans la même majorité. Ça n'a pas de sens. C'est une coalition d'opposition, d'empêchement, qui n'a aucune capacité, c'est ainsi, à gouverner, à développer une politique.
Alors ça, c'est dans la sphère politique. Imaginons que l'émotion échoue, ce qui est le plus probable à ce stade, mais enfin bon, restons prudents tout de même. Le texte est adopté, Bon, ça ne résout pas la crise sociale. Vous avez encore 70 000 personnes, nous dit la police, dans les rues samedi. Des manifestations tous les soirs depuis jeudi. Des grèves qui continuent, qui s'amplifient. La cote d'Emmanuel Macron, 28% seulement d'opinion favorable, selon le baromètre IFOP-JDD. Frédéric Dabi expliquait hier que le socle du premier tour du président de la République est atteint pour la première fois. On parle d'une gilet jaunisation du mouvement. Bon, ça ne va pas très bien quand même.
Non, ça, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette présentation. Je trouve qu'on a dans le commentaire la présentation, il y a une survalorisation de phénomènes microscopiques ou non significatifs.
Oui. Ne mettons pas sur le même plan 200 personnes dans Paris et 1,5 million de manifestants il y a quelques semaines.
Mais même 1,5 million, nous sommes 5, il y a 49 millions d'électeurs en France, même 1,5 million de manifestants. Sur les retraites, ça a été en gros entre 400 000 dans les basses eaux, 1,5 million dans les moments les plus mobilisateurs.
Il y a une dramatisation médiatique des oppositions.
C'est normal de manifester, ça fait partie de nos droits. Cette réforme est importante. Les Français, ils sont plutôt hostiles. On est dans un fonctionnement tout à fait normal. Ensuite, dire qu'il y a une gilet jaunisation, moi j'y suis sensible, je suis ça de près. Il y a dans les manifestations, à quelques moments, il y a le retour de cette violence à laquelle on est très habitué malheureusement et qui vient d'une radicalisation, on sait très bien, de l'extrême gauche. Donc il n'y a pas de ce point de vue-là, rien de nouveau. Et puis c'est tout à fait articulé à ces efforts que fait la gauche de l'hémicycle, en particulier la France insoumise. On l'a quand même vu nettement, le charivari à l'Assemblée, les happenings, les envolées les plus populistes dans un concours avec le RN. Et bien effectivement, à un moment donné, on a le sentiment d'une France soulevée. Mais vous verrez, quand la réforme sera adoptée, il ne se passera rien. Et les Français, dans quelques mois, peut-être un peu plus, seront rassurés que la réforme ait eu lieu. Ça, eh bien, je prends les paris.
Prenons date, effectivement, Dominique Régnier, avec ce pronostic que vous formulez ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h19.
Dans moins de 5 minutes, c'est le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.
Oui, il y a 20 ans, jour pour jour, les États-Unis envahissaient l'Irak. L'ordre d'Autriche nous fera réentendre les sons, les voix de ce qui apparaît aujourd'hui comme une catastrophe stratégique. Il est 7h19.